France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Emmanuel Cesson, je suis né le 17 avril 1984 à Oullins, dans le Rhône, à côté de Lyon. Et je suis harpiste, avec un H, parce que je joue de la harpe.
Après nous avoir raconté comment il a choisi son instrument, Emmanuel Cesson nous fait part aujourd'hui d'une autre de ses passions. Écoutons-le se souvenir de ses années d'école et de loisirs.
J'étais doué, j'étais bon à l'école aussi, j'avais de la chance. J'aimais passer du temps avec mes copains, mais j'aimais aussi passer du temps effectivement dans la musique. Et j'ai eu une autre grande fascination toute mon enfance et mon adolescence, et même mes années un peu au CNSM, c'était les jeux vidéo. Aux grandes dames,
c'est assez solitaire,
parents,
ça.
Voilà. La plus grosse part de mon temps de veille, je le passais plus derrière ma Game Boy que derrière ma harpe. C'est vous dire. Toutes ces musiques, parce que souvent les musiques de ce genre de jeux vidéo, c'est pas des trucs super répétitifs comme Tetris, mais d'ailleurs même Tetris finalement, je me souviens, j'exerçais mon oreille et je les connais encore toutes sur le bout des doigts par cœur, je peux vous les ressortir comme ça, quoi. C'est assez génial. Et toujours la musique dans les jeux vidéo a joué un rôle aussi important, j'allais dire, pour moi. Enfin, c'est super important quand il y a une musique vraiment nulle.
Je vais le pas jeu approcher. Est pas possible.
Voilà, c'est ouais. ça. Et moi, je me souviens, c'est dans ma période ado, il y avait un jeu qui s'appelait Final Fantasy, qui est un jeu japonais, hein, d'Heroic Fantasy de Square Enix, et la musique m'a fasciné. Et moi, effectivement, j'étais un geek des petits. C'est très drôle, c'est que j'ai gagné ma première console de jeu en participant à l'école des fans.
Ah oui, vous avez quel âge ?
J'avais 7 ans et demi et j'avais 3 mois ou 4 mois de harpe. Je venais de commencer.
Comment vous vous retrouvez à l'école des fans ?
Voilà, Jacques Martin. Quand j'ai revu l'émission ensuite plus tard, effectivement, c'était la pièce vraiment de débutant, quoi. J'apprenais à faire 1, 2, 3, 4. On ne joue qu'avec 8 doigts à l'harpe. 4 doigts main droite, 4 doigts main gauche. Oui. On ne sert pas des petits doigts parce qu'ils sont trop. Ils n'arrivent pas à atteindre les cordes. Ils sont trop faibles, trop courts et puis trop musculairement faibles. Enfin, on pourrait les développer, mais effectivement, c'est de toujours. On ne joue jamais avec plus de 8 doigts. Mais quand je me revois, déjà, il y avait une technique assez saine. En tout cas, je pense que la prof qui m'a débuté, Jacqueline de Foulounou, c'était une des premières élèves de Germaine Lorenzini, qui était la harpe solo de l'Orchestre National de Lyon, qui a été le gourou de la harpe française. C'est la prof d'Isabelle Moretti,
oui.
Qui a un peu formé beaucoup de grands harpistes là dans les 25 dernières années du 20e siècle, j'allais dire. Voilà. Et donc, Isabelle est une de ses élèves, Isabelle Moretti au CNSM de Paris. Et Jacqueline a été une des premières élèves de Germaine Lorenzini. Et donc, je pense que déjà, dès le début, j'ai eu une approche technique qui n'était pas celle qui pouvait être enseignée de manière un peu plus générale dans le reste de la France. Mmh. Parce que Germaine a une technique de son très, très particulière, une manière d'approcher le son et la prise de corde de manière très, très, très spéciale. Et ça, je ne le savais pas à mon âge, à 7 ans, je n'avais aucune idée. Mais en tout cas, effectivement, quand je re-regarde cette vidéo de moi chez Jacques Martin, je vois que déjà, il y avait une bonne idée de placement, en tout cas pas certains beaucoup de défauts qu'on voit chez les jeunes avec la main complètement tordue, les coudes en l'air et les pouces en l'air.
Voilà. Une détente déjà.
Il y avait
du
une
bras,
vraie détente, c'est ça. Il y avait une vraie approche plus corporelle. Et c'est marrant parce que finalement, bon, on rencontre Marielle Normand qui est quand même quand on est un enfant, c'est pareil, cette grande dame qui portait en plus, je me souviens, un pantalon noir en cuir, super classe, mais en même temps extrêmement pareil, douce. C'est vrai que Marielle, elle rencontrait un peu, c'était le clash, parce qu'il y avait à la fois quand même, c'était une très belle femme blonde, donc on avait un peu stéréotype, et en même temps, elle portait des pantalons, elle faisait aussi de la musique légère, elle faisait pas que des trucs sérieux, et bon, je me rendais pas compte de ça à 7 ans, mais voilà, c'était une grande rencontre, je me souviens, et je lui ai écrivé mes vœux, tous les ans, parce que j'avais cette espèce d'exercice obligé par mes parents, il fallait que je me paye un certain nombre de cartes de vœux tous les Noëls. Donc j'ai écrit mes vœux à Marielle et on a gardé le contact toujours depuis ce temps-là. Finalement, ça a un peu changé le tour des choses, parce que quand Jacques Martin me demande est-ce que je veux être harpiste, je dis oui, et j'ai 7 ans et demi. Et alors que pourtant, c'est pas si présent que ça dans ma tête.
Et vous l'étiez pas forcément dit avant, en fait.
Non, c'est ça. Ce n'est devenu une évidence vraiment que beaucoup plus tard. Thank you.
Emmanuel.
Emmanuel, bien sûr. Quel âge as-tu?
7 ans et demi.
7 ans et demi. Tu es parisien?
Non.
D'où tu es?
De Lyon.
Comment tu as eu l'idée de jouer de la harpe?
Parce que je trouvais que ça avait un beau son.
Oh ben oui, je parle que ça a un beau son. Ouais.
Il a parfaitement raison.
Et alors, quand tu as dit à tes parents, je veux jouer de la harpe, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Eh ben, d'accord, on va te faire prendre des cours de harpe.
Tu veux en faire ton métier?
Oui.
Tu as très bien joué. Et tu reviens me voir. La prochaine fois qu'on fait une école des fans d'herpes, tu reviens me voir, tu auras 2 ou 3 ans d'expérience. Donc tu pourras passer en super vedette. D'accord, Emmanuel?
Oui.
Est-ce qu'il y a des lieux de vacances?
Alors oui, il y avait, parce que donc j'ai grandi donc à Lyon, enfin en région lyonnaise, à Chaponneau, et donc on allait souvent en vacances chez mes grands-parents forcément, donc soit dans l'Ardèche, vallée du Rhône, à Cruas, à côté de la centrale nucléaire de Cruas-Meis, soit dans l'Allier chez mes grands-parents maternels à Montluçon, et donc ça faisait une sacrée trotte en voiture aussi. Et on écoutait beaucoup de musique. Des souvenirs assez traumatisants, j'allais dire, parce qu'on écoutait un peu toujours les mêmes choses, on partait toujours avec les mêmes cassettes. Ça m'a fait détester Beethoven. Dans mon jeune âge, étant fasciné par la couleur et l'harmonie, on écoutait les concertos pour violon, je me souviens, c'était Oistrakh. Et c'est quelqu'un qui a un mélodiste génial, et lui, l'harmonie, c'était pas trop sa recherche. Le côté de Beethoven, c'était casser la forme, c'était répéter des harmonies sur des très longue durée, avoir des pédales interminables, etc., sans forcément chercher un parcours harmonique super complexe. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais ce goût de l'harmonie, j'adorais Brahms, j'adorais Debussy et Ravel, parce que j'étais fasciné par la couleur et les accords, et finalement, j'étais plus réceptif à ça, et donc pour moi, les concertos de Beethoven que je me payais à chaque fois sur ces trajets de 8 heures, c'était pas le grand plaisir. Par contre, c'est aussi là que j'ai découvert et enregistré du début jusqu'à la fin dans ma tête Carmen. On écoutait Carmen dans la version référence Deutsche Grammophon, Berganza. C'était la version avec les dialogues parlés. Et je me souviens de ces dialogues qui me faisaient éclater de rire parce qu'avec dit avec un accent espagnol à couper au couteau, un peu n'importe comment. Grâce à ça, encore aujourd'hui, je connais Carmen du début jusqu'à la fin. Je peux vous faire l'intégralité du livret, en fait. Voilà. Et ça...
C'était votre première porte vers l'opéra, parce que vous n'êtes pas forcément d'une famille où on entend où ce sont des lyricomanes, c'est plutôt la musique instrumentale.
Voilà, c'est ça.
Vous qui allez avoir une carrière plus tard, quand même, pendant 15 ans en fosse.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas été biberonné trop à l'opéra et aux lyriques. Il n'y avait pas de fascination pour les grandes divas. Finalement, j'ai découvert ça quand je suis rentré à l'opéra de Paris. Même, j'allais dire, ma période plus grande CNSM, j'écoutais pas tellement de lyriques, en fait. J'étais plus vraiment orienté harpe, harpe, harpe et musique symphonique.
Je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît.
Tu es le diable, Carmen?
Oui.
«
France Musique, les grands entretiens d'Emmanuel Cesson.
Et puis, vous arrivez donc à Lyon pour le conservatoire. J'entends, oui, dans votre développement musical, il y a ce premier professeur, Jacqueline
De Foulounou, tout à fait.
Qui est votre premier professeur. Et ensuite, vous allez rentrer donc dans la classe de Germaine Lorenzi.
En particulier.
C'est
Mais
ça.
Mais c'était pas elle qui tenait la classe. Ah. La classe du CNR, c'était mon deuxième prof. Et ça, c'est super important aussi. C'était un homme. Il s'appelait Christophe Truand. Truand, c'est assez drôle quand même. J'ai des profs au nom improbable. Truand avec un T, cependant. Donc, Jacqueline de Foulounou me commence. Elle est élève de Germaine, qui lui avait donné des cours en particulier. Bref, je fais ses premières années de harpe celtique, parce qu'on commence sur une harpe sans pédales. Et puis, j'apprends un peu les pédales avec Jacqueline. Et au bout de 4 ans, je passe chez Christophe, qui était le prof qui prenait en charge les niveaux un peu plus élevés.
Et là, vous vous retrouvez avec un homme.
Avec
alors.
Un homme. Et c'était, ouais, encore une fois, les étoiles s'alignent bien parce que j'ai pas souffert. Je savais pourtant déjà, je pense à ce stage-là, que...
Parce que là, ce stage-là, c'est quoi?
Stage-là, c'était 10-11 ans. Donc, je savais déjà à ce stage-là que je préférais les garçons. Donc, c'était pas... Mais, j'allais dire, je vivais pas la harpe comme un instrument que féminin. Et mine de rien, même si je vivais déjà mal intérieurement le fait d'être différent, de par mon identité sexuelle, je vivais pas de complexe du tout vis-à-vis de l'instrument parce que j'avais un prof qui était un homme marié avec des enfants et une famille hétérosexuelle. Donc voilà, j'avais un côté très décomplexé de l'instrument où je souffrais pas de ça. Et tant mieux d'ailleurs parce que j'aurais peut-être beaucoup plus mal vécu si j'avais...
Oui, parce que vous avez jamais souffert d'assumer, si je puis dire, la
non.
harpe
non.
en tant que garçon.
C'est ça. Et puis je pense qu'on a une chance en France, c'est qu'il y a moins de bullying, comme on dit, de... j'avais la chance de faire les classes horaires aménagées, donc j'étais qu'avec des musiciens classiques, dans des classes à petits effectifs, et des gens souvent quand même, mine de rien, d'un milieu plutôt favorisé, et donc d'un milieu aussi assez intellectuel. Et donc, alors c'était pas toujours super tendre, j'allais dire, comme tous les enfants à l'école, on s'en prend dans la gueule, mais quand même, j'ai eu une adolescence, ou une préadolescence assez protégée en fait. C'était génial le Conservatoire de Lyon, parce que 4 jours par semaine, les cours de l'école étaient dans le conservatoire même. Donc on était toujours, on faisait toujours de la musique.
Alors Monsieur Truand, il était comment ?
C'est une personne extrêmement intellectuelle, extrêmement cérébrale. Et lui m'a donné le goût de l'analyse, de la compréhension profonde du texte musical par son analyse intellectuelle, en fait. Alors ça a été une grande chance. Ça a aussi été un peu une malédiction, parce que finalement, quand on est interprète, oui, c'est bien d'avoir la tête, mais en fait, l'instinct est aussi super important, j'allais dire.
Mais à force de tout intellectualiser,
voilà,
on le perd un peu, cet instinct.
Mais lui en a eu conscience dans mon évolution, parce que quand il y a le bulletin qui m'a le plus marqué de mes années d'études avec lui, qui disait « Emmanuel a la tête qui va très très vite, mais il faut savoir laisser le temps au corps ». Vous voyez déjà le français, la manière d'exprimer les choses, c'est déjà, alors que j'avais moi 13-14 ans, vous voyez. Mais il avait déjà cette perception qu'effectivement, que dans ma tête, et j'étais un peu super rapide, mais j'étais souvent très frustré par la lenteur de la réponse corporelle, en fait. Et donc souvent, j'allais même jusqu'à, j'allais pas dire maltraiter mon corps, mais quand même, si, je n'écoutais pas, en tout cas. Et j'ai mis très longtemps à finalement commencer à écouter mon corps et à comprendre ce qu'il voulait dire.
Et qu'est-ce qu'il vous disait ?
Oula, à cet âge-là, c'était très compliqué parce que d'une part, mon corps commençait à se sexualiser, mine de rien. Et je savais donc que j'étais différent, que je préférais les garçons. Mais je le vivais pas bien, parce que j'étais différent et j'aimais pas être différent. Donc à la fois pour me protéger, je pense que je mettais une emphase énorme sur tout ce qui n'était pas corporel. Ça poussait aussi ce côté-là, c'est-à-dire j'étais très bon à l'école, j'aimais beaucoup avoir des conversations avec les adultes. Je voulais être un adulte en fait, je voulais être un adulte le plus vite possible. Je voulais pas être un ado. Et donc mon corps, ben, je le maltraitais, j'allais dire j'aimais pas l'activité physique. J'étais boulimique, je mangeais mes émotions en fait. Je mangeais pour faire taire finalement le corps. C'était un peu pour le remplir et qu'il soit finalement, c'était un peu son seul moyen d'exister. Quoi. Et derrière la harpe, il y avait l'intention musicale, la frustration de pas être des fois y arriver, d'avoir des limites techniques, mais il y avait pas l'écoute du corps. Ça, c'est venu vraiment beaucoup plus tard quand Germaine et Isabelle m'ont repris en main, finalement, dans l'étape suivante un peu de mon apprentissage.
Parce que dans cette technique de Germaine, justement, je crois, Emmanuel Cesson, que c'est beaucoup la manière de prendre la corde, la pulpe du doigt et la sensualité dans la détente d'avoir un son ample.
Ouais. Mais j'avais tellement fait abstraction du corps qu'il m'a fallu des années, je me souviens les deux premières années du CNSM, ça a été la traversée du désert. Parce que justement, j'allais voir Germaine régulièrement à Lyon. Et Germaine, c'était une vraie passionnée. Je veux dire, pour elle, il y avait que la musique. Elle est restée vieille fille un peu toute sa vie. Elle n'a pas eu de famille, sauf ses élèves, en fait, j'allais dire. Et donc, quand on allait chez Germaine, je prenais le premier TGV du matin. J'arrivais chez elle vers 10h30. Et puis, je repartais de chez elle et j'avais le TGV 19h, quoi. Et des fois, pourtant, sur 7 heures de cours, on n'avait pas passé la moitié d'une pièce de 10 pages, quoi. Donc c'était ce rapport-là, extrêmement
intense,
mais j'allais dire presque aussi boulimique finalement d'une autre manière. Mais et donc quand on parle de physicalité du son, donc elle m'a fait comprendre l'importance de ça, l'importance que en fait, si la corde n'est pas prise comme il faut, on ne peut pas développer la phrase ou l'idée de la phrase et de la musique si physiquement on ne ressent pas les choses, ce qui se passe dans la main en fait. Donc elle m'a obligé à rentrer dans ma main, mais rentrer dans ma main, rentrer dans mes doigts, rentrer dans mon poignet, mon coude, ça s'est passé par des gros coups de volonté, ce qui est finalement très difficile aussi, parce que finalement, en fait, il m'a fallu ces deux années de traversée du désert à m'arrêter. Je me souviens, j'arrivais des fois en cours avec Isabelle à Paris, suite à mes cours avec Germaine, je me mettais derrière l'harpe, je faisais une demi-note et puis je fondais en larmes parce que je savais pas, j'entendais que ce qui sortait, c'était pas ce que je voulais. Ce que j'arrivais des fois à réaliser après 5 heures de moulinette chez Germaine, je n'arrivais pas à le retrouver tout seul derrière ma harpe. Et ça, c'était cause d'énormes frustrations, etc. Et en fait, mine de rien, je pense que quand j'ai vraiment le plus appris, ça a été plus tard. Quand je suis rentré à l'opéra et que j'ai finalement laissé mes maîtres un petit peu de côté et qu'il a fallu faire. Et qu'il a fallu en fait faire abstraction, ne plus vouloir faire pour satisfaire, mais vouloir faire pour servir la musique.
Les mentors, quels sont-ils quand on a 13-14 ans? Vous avez des figures auxquelles vous vous attachez, soit les grands harpistes hommes, parce que c'est vrai qu'on attache cet instrument à la femme, mais on a un peu l'impression que quand même pendant les 3/4 du temps, les plus grands étaient des hommes aussi.
J'étais fasciné par Isabelle Moretti. J'ai eu une période aussi, comme rôle modèle homme, il y avait à ce moment-là Xavier Demes qui commençait sa carrière de disque chez Claves.
Qui a 10 ans de plus que vous.
Voilà, c'est ouais. Ça. Mmh. Et donc j'ai un souvenir d'un CD autour d'Henriette Renier chez Harmonia Mundi qui me fascinait, alors que finalement aujourd'hui c'est plus du tout l'harpe que je défends, mais j'ai le souvenir effectivement d'avoir eu cette figure de Xavier un peu que je regardais avec admiration, voilà, parce qu'il c'était un garçon, un Français qui avait une belle carrière et qui voulait finalement sortir là et qui l'a toujours.
Quelque chose d'assez similaire au départ, oui. Comme vous, c'est-à-dire à 22 ans, le Philharmonique de Vienne.
Voilà.
Ça, là-dessus, vous vous rejoignez un peu.
Ouais. Mais je sentais vraiment chez Isabelle Moretti cette profondeur, cette approche sonore, cette à la fois une extrême précision de l'articulation, en même temps une une harpe qui ronronne, quoi. Une harpe qui sonne de librement, qui n'existait pas quand j'écoutais Xavier, par exemple. Mais donc, c'est pour ça que je voulais. De toute façon, j'avais déjà, à 13-14 ans, je savais que je voulais au CNSM de Paris. Enfin,
pour elle.
Ce serait Isabelle. Pour Isabelle.
Il y a une filiation entre De Foulounou, Lorenzini et Isabelle. Et Moretti.
C'est clair. Et c'est aussi une chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient chez Germaine dans ces âges-là, qui venaient d'une technique complètement différente et qui devaient passer encore plus à la moulinette que moi, j'allais dire. Donc, mine de rien, j'ai eu aussi de la chance là-dessus. C'est que techniquement, même si j'ai eu des ajustements à faire, ça a été moins profond que certaines personnes qui ont vraiment dû reprendre presque à zéro.
Et si on fait une petite halte sur la harpe et sa technique, Emmanuel Cesson, l'école française de harpe, c'est celle qui vous est arrivée à vous ?
Oui, je pense que, mine de rien, déjà, Marielle Norman, à l'école des femmes, disait « Alphonse Asselmans, c'est notre grand-père à tous ». Qui était Alphonse Asselmans ? Alphonse Asselmans, c'était un harpiste belge, pas français.
Oui, c'est un Belge qui a lancé l'école française.
Qui a lancé l'école française à la fin du 19e, mais qui a formé les plus grands harpistes du début 20e. Donc Marcel Grandjani, Henriette Renier, Carlos Salcedo, Marcel Tournier, Pierre Jamais, tous ces gens-là sortaient de l'escarcelle d'Alphonse Asselmans et ont fait la harpe française. Mais Germaine aussi a fait son propre miel, c'est-à-dire que elle avait ce qu'on appelait, alors on fantasmait à l'époque, j'ai pas si ça a vraiment sens aujourd'hui, on appelait ça une main naturelle, parce qu'elle avait pas une main facile, elle avait une toute petite main, pas des grands doigts, et donc elle avait dû trouver par ses propres moyens à réfléchir un peu sur sa production sonore. Et elle était fascinée par la skin elle-même et elle essayait de nous transmettre ça. Mais les cours avec Germaine, c'était vraiment, je veux dire, on pouvait passer, encore une fois, 2 heures sur jouer correctement un deuxième doigt, un index, quoi. Et ça, j'en ai eu besoin, je m'en suis nourri, et ensuite, j'ai dû ensuite grandir et m'en éloigner pour en faire mon miel plus tard.
Parce que la harpe, c'est le pouce et les trois suivants.
Voilà, qui s'opposent.
C'est ça. C'est comme ça qu'on en parle.
Donc,
la tenue du pouce, plus ou moins haute, plus ou moins droite.
Et c'est en fait ce travail de réflexion de Germaine sur l'opposition dans la harpe, c'est essentiel. D'autant plus qu'il y a une différence vraiment fondamentale avec le piano, même si ce sont deux instruments polyphoniques qui lisent les partitions de manière similaire, c'est que le piano, il y a une forme de gravité, c'est-à-dire que la touche, c'est de haut en bas qu'on l'appuie. Et nous, les cordes, le plan de cordes, se jouent de manière latérale. Et c'est une différence essentielle, parce qu'on peut pas se servir du poids ou de la gravité pour tomber, pour sentir. Il faut trouver d'autres moyens pour arriver à ressentir le poids de son bras et arriver à s'en servir pour évacuer une corde de manière latérale, en fait. Et donc, Germaine a eu cette réflexion-là, et Isabelle également, et ce travail sur l'opposition est ce qu'on appelle arriver à équilibrer les forces pour ne pas justement être dans une forme de contrainte musculaire de la main, pour que jouer facile en fait. C'est ce que j'appelle libérer la corde, qui n'était pas un terme que j'ai appris chez Germaine ou chez Isabelle, mais en fait, j'estime que jouer de l'harpe, ce n'est pas articuler sur la corde, c'est en fait préparer et ensuite laisser la corde partir. La corde glisse quasiment littéralement du doigt, et en glissant, la sonorité qui est émise est la plus libre possible, en fait.
Cesson et l'orchestre régional Avignon-Provence, dirigé par Samuel Jean, qui interprétait ici l'Allegro Risoluto du concerto d'Henriette Renier. Et c'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Emmanuel Cesson. Réalisation Christine Amado, prise de son Michel Gassic, mixage Sébastien Royer, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.